4h ici à Paris, 2h en temps universel, 5h30 à Téhéran.
Antoine Galen.
C'était redouté, Israël vient de frapper l'Iran. L'État hébreu indique avoir visé des dizaines de sites militaires et nucléaires. Israël juge que son attaque a probablement tué le chef d'état-major iranien. Washington déclare ne pas être impliqué dans ces attaques. La télévision d'État iranienne évoque de fortes explosions à Téhéran et à Natanz, ville qui abrite un important site nucléaire. Pourtant, Donald Trump appelait Israël à ne pas frapper l'Iran tant qu'il y a des chances d'un accord sur le nucléaire. Le président américain espérait un accord lors des nouveaux pourparlers prévus ce dimanche. Détail à suivre. Dans ce journal également, au Nigeria, le mouvement Take It Back a renoncé à manifester. Et ce, face au déploiement des forces de sécurité à Lagos et à Abuja. Et puis en Espagne, le premier ministre Pedro Sanchez, fragilisé, le numéro 3 du parti socialiste Santo Cerdán, a été contraint de démissionner en raison d'accusations de corruption. Mais d'abord, ces frappes israéliennes en Iran, l'État hébreu indique avoir visé des dizaines de sites militaires et nucléaires. Israël juge que son attaque a probablement tué le chef de l'état-major iranien. À Téhéran, de fortes explosions ont été entendues. Selon la télévision d'État iranienne, du feu et de la fumée sont visibles au centre de commandement des gardiens de la révolution à Téhéran. Elle évoque des explosions dans la ville de Natanz qui abrite un important site nucléaire, ainsi que des morts dans des immeubles résidentiels de la capitale. Washington déclare ne pas être impliqué dans ces attaques. L'opération militaire israélienne contre l'Iran durera autant de jours que nécessaire. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahou. L'État hébreu a déclaré l'état d'urgence. Son espace aérien est fermé. En Iran, le trafic est suspendu à l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran. Et pourtant, Donald Trump appelait Israël à ne pas frapper l'Iran tant qu'il y a des chances d'un accord sur le nucléaire. Le président américain espérait un accord lors des nouveaux pourparlers prévus ce dimanche. Mais le contexte est particulièrement tendu car Téhéran souhaite construire un nouveau site d'enrichissement et augmenter sa production d'uranium. Annonce faite ce jeudi après l'adoption d'une résolution contre l'Iran par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui estime que Téhéran n'a pas respecté ses obligations en matière du nucléaire. On écoute le chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique David Rigoulet-Rose qui revient sur la position de Donald Trump dans ce conflit.
Trump, depuis le début, veut parvenir à un accord. Il ne souhaite pas une opération militaire qu'il n'a jamais exclue, mais en espérant qu'elle n'aurait pas lieu. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Donald Trump est obligé de reconnaître que l'obstruction iranienne, en fait, risque de le conduire à cette opération militaire qu'il ne souhaite pas mener. Clairement. Et là, évidemment, il y a la position israélienne qui sera contentée par ce principe de nécessité, même s'il y a beaucoup, évidemment, d'attendus incertains dans le cas d'une opération militaire, parce que de toute façon, il y aura une réponse iranienne, à la fois sur Israël, et évidemment, les Américains ne pourront pas ne pas réagir, et puis il y a toutes les bases américaines qui sont menacées. Donc, on approche du moment de vérité.
David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient et de la péninsule arabique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique au micro d'Alban Le Prince. Elle promet autant de bateaux que nécessaire face au blocus israélien à Gaza. Rima Hassan a pris la parole ce jeudi soir sur la place de la République à Paris, quelques heures après son retour en France. L'eurodéputé de la France insoumise avait été arrêté ce lundi, comme 11 autres personnes après l'arraisonnement par Israël du voilier Madeleine, chargé d'aide humanitaire pour Gaza. L'enclave palestinienne, toujours visée par l'État hébreu. Ce jeudi, la défense civile annonce la mort de 29 personnes. La plupart d'entre elles se trouvaient à proximité d'un centre d'aide humanitaire.
RFI.
Le déploiement de la garde nationale à Los Angeles par Donald Trump était illégal. C'est en tout cas ce qu'affirme un juge fédéral américain ce jeudi. La veille, plus de 1000 personnes ont encore manifesté pacifiquement dans les rues de la ville californienne avant une deuxième nuit de couvre-feu dans le centre-ville imposée par la mairie. Le mouvement de protestation contre la politique migratoire de l'administration Trump a gagné d'autres villes, New York, Indianapolis ou encore Denver. Au-delà du président américain, un autre homme incarne ses politiques, Stephen Miller, conseiller ultra-puissant à la Maison-Blanche, Oriane Verdier.
Il est devenu le monsieur immigration de l'administration américaine. À la Maison-Blanche, comme sur les plateaux télé, où il affirme vouloir sauver la civilisation face à l'invasion de migrants. Un intouchable de l'équipe Trump, affirme NBC News, qui cite un ancien conseiller de la Maison-Blanche. Stephen Miller, c'est l'identité du président, affirme-t-il. Il l'est depuis un certain temps, c'est seulement maintenant qu'il a l'influence et le pouvoir nécessaires pour concrétiser pleinement son projet. Et pour cause, depuis le début du mandat présidentiel, le conseiller à la sécurité intérieure a fait signer des dizaines de décrets exécutifs au président. Il ne se contente pas d'être l'architecte de la politique anti-migrant de Donald Trump. Il est également en première ligne dans son application. En mai dernier, selon le New York Times, Stephen Miller a ainsi donné l'ordre à ICE, la police de l'immigration, de redoubler d'efforts. Ordre qui a mené à une descente de ICE dans un magasin de bricolage de Los Angeles, suivi de heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Et enfin, de la décision de Donald Trump de déployer des militaires contre l'avis du gouverneur de Californie.
Direction le Nigeria, où le mouvement Take It Back a renoncé à manifester, et ce face au déploiement des forces de sécurité à Lagos et à Abuja notamment. Ce mouvement dénonce depuis plusieurs mois les problèmes économiques et de sécurité auxquels font face des dizaines de millions de Nigérians. Mais les leaders de cette fronde ont une nouvelle fois été mis en échec. Les explications à Abuja de notre correspondant Moïse Gomis.
Des véhicules siglés postés sur des points stratégiques, des hommes et des femmes en uniforme mais aussi en civil. Comme en octobre dernier, le mouvement Take It Back a donc une nouvelle fois reculé devant le déploiement des forces de sécurité partout des manifestations contre la vie chère et l'insécurité étaient programmées. Essentiellement dans le sud-ouest du Nigeria, à Lagos, Ondo, Oyo, mais aussi à Abuja, quelques poignées de personnes téméraires ont scandé leurs revendications en cette journée de la démocratie. Le président Bola Ahmed Tinubu n'a eu d'ailleurs aucune peine à ignorer des slogans peu audibles à cause des cortèges clairsemés. Il a décalé son discours à la nation pour le prononcer en début d'après-midi devant la session conjointe du Sénat et de la Chambre des représentants. Et après avoir défendu sa vision de la démocratie et ses réformes libérales, le président Tinubu a nommé parmi les nouveaux commandeurs de l'ordre du Niger le prix Nobel Wole Soyinka et à titre posthume l'écrivain et écologiste Kensaro Wiwa, pendu en 1995 avec ses 8 compagnons Ogoni par le régime du dictateur Feu Sani Abacha. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
En Afrique du Sud, le bilan des inondations monte à 78 morts. De fortes chutes de neige et des pluies torrentielles ont touché ce lundi plusieurs zones de la province du Cap-Oriental dans l'est du pays. Des inondations jugées sans précédent par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il se rendra dans la région ce vendredi. C'est un scandale qui fragilise le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Le numéro 3 du Parti Socialiste, Santos Cerdán, a été contraint de démissionner en raison d'accusations de corruption. Nous n'aurions pas dû lui faire confiance, a déclaré Pedro Sanchez, qui a demandé pardon aux Espagnols, mais qui refuse d'envisager des élections anticipées. Les précisions de Daniel Valo.
C'est sur un ton grave et austère que Pedro Sanchez a reconnu son erreur. « Jusqu'à ce matin, j'étais convaincu de l'intégrité de Santos Cerdán », a déclaré le dirigeant socialiste qui avait refusé ces derniers jours de demander la démission du député, l'un des hommes les plus importants au sein du Parti Socialiste Espagnol. Un rapport de police accablant et la fuite d'enregistrements tout aussi accablant ont eu raison du soutien indéfectible apporté jusqu'à présent à Santos Cerdán, accusé dans une affaire de corruption tentaculaire qui vise également un ancien ministre de Pedro Sanchez. Le dirigeant espagnol demande pardon à ses concitoyens, mais il écarte toute idée d'élection anticipée, malgré l'ampleur d'un scandale dénoncé par la droite, mais aussi désormais par ses alliés de gauche. Pedro Sanchez doit démissionner, a martelé ce jeudi soir le dirigeant du Parti Populaire Alberto Núñez Feijóo, qui a jugé les explications du Premier ministre espagnol insuffisantes et décevantes. Dimanche, à l'appel du principal parti d'opposition espagnole, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Madrid pour réclamer le départ du dirigeant socialiste.
Et puis l'actualité à retenir de ce journal, ce sont ces frappes israéliennes en Iran. Le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, tué dans l'attaque israélienne. L'État hébreu indique avoir visé des dizaines de sites militaires et nucléaires. Israël juge que son attaque a probablement donc tué le chef de l'état-major. À Téhéran, de fortes explosions ont été entendues. Plus de détails dans nos prochaines éditions.